en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. L'académicien René Bazin de l'Académie française, dont nous évoquons dans cette émission La vie et l'œuvre, revient dans l'actualité grâce à une nouvelle édition d'un de ses romans les plus célèbres, Les Noëlets. Si ce roman est de nouveau disponible en librairie, c'est grâce à l'Association des Amis de René Bazin, dont j'ai le plaisir de recevoir le président, Monsieur Jacques Richoux. Monsieur Richoux, bonjour.
Madame, bonjour et merci de m'accueillir.
Mais c'est nous qui vous remercions d'être venus jusque dans notre studio. Avec nous aussi dans le studio, une toute jeune fille qui est l'arrière-arrière-petite-fille de René Bazin, Aliénor Viau. Vous avez fait des études Cagnes et des études littéraires. Vous connaissez bien l'œuvre de votre aïeul.
Oui, bonjour madame. Effectivement, je suis assez passionnée par cette œuvre et sa personnalité très attachante, notamment.
Alors, vous allez nous en parler. Monsieur Richoux, comme on peut s'en douter, le but d'une association, Les Amis de René Bazin, c'est bien de faire connaître cet écrivain qui a eu un grand succès du temps de son vivant et qui maintenant est un peu oublié. C'est d'ailleurs le sort de beaucoup d'écrivains. Est-ce normal ?
Alors, effectivement, vous faites bien de nous parler de la réputation de René Bazin qui a été perpétuée par son petit-neveu Hervé Bazin.
Oui.
Et puis aujourd'hui, bien Hervé Bazin fait perpétuer la mémoire de René Bazin.
Bon, quand René Bazin est-il né? Alors, à cette époque, où est-il né? De quel pays?
Voilà, alors pour le situer, nos auditeurs ne vont peut-être pas être passionnés par la date, 1853. Mais enfin, l'époque, c'est fin 19e et Première Guerre mondiale. Voilà. Et c'est ça l'époque. La région, c'est la région des Pays de Loire, l'Anjou. L'Anjou, la Vendée angevine. C'est une région très attachante et très riche en art et en histoire.
Et quel fut le parcours de René Bazin? Était-il seulement écrivain? Était-il professeur?
Alors, c'est un homme aux multiples facettes. Je pense qu'il faut dire d'abord que c'était un journaliste. Il a commencé sa vie comme journaliste et il a été journaliste toute sa vie.
Il faut dire qu'à l'époque, les journaux accueillaient volontiers les articles des grands académiciens.
Voilà.
Enfin, il n'était pas à l'époque d'ailleurs, les grandes signatures.
Oui, il était journaliste au départ parce que c'était un homme aux convictions fortes. C'était un homme engagé. Et c'est pour ça qu'il très vite, il s'est mis à écrire. Alors, de journaliste, il est devenu romancier, bien sûr. Mais sa vie professionnelle était d'abord d'être un juriste. C'est un homme qui a fait des études de droit. Et il était professeur des universités à l'Université catholique d'Angers, qui avait été créée par Mgr Freppel à la fin du 19e siècle. Donc, si vous voulez, c'est un homme un peu bivalent, on pourrait dire écrivain et juriste.
Alors, quand vous dites qu'il a été romancier, donnez-nous une idée de la quantité de romans qu'il a publiés et des titres les plus célèbres.
Alors, moi, je suis stupéfait par sa fécondité. Il a écrit plus de 60 livres, plus qu'un par an. Ça paraît absolument prodigieux. Moi, ça me paraît incroyable d'écrire.
Il avait une facilité d'écriture, certainement.
Alors, je le pense. Et puis, il était très sollicité et très actif dans ce qu'il faisait, si vous voulez. Bon, il y a bien sûr des livres qui se reprennent. Hein. Il y a des livres, on voit des grandes veines. Mais puisque vous me demandiez les livres les plus célèbres, je dirais aujourd'hui, pour parler de la réputation de René Bazin, que le plus célèbre, c'est la biographie de Charles de Foucault.
Ah oui, celui qui a le plus tiré, en tout cas. Oui, oui.
Dont on a beaucoup parlé au moment de la béatification de Charles de Foucault il y a quelques années. C'est le courant spirituel de l'auteur. Hein. Ce sont ses convictions religieuses. Le deuxième livre qu'on pourrait citer, c'est Les Oberlés. C'est un livre qui se passe en Alsace et c'est la fibre patriotique du romancier. Et puis le troisième qui rejoint notre émission d'aujourd'hui, je citerai La Terre qui meurt. C'est l'écrivain régionaliste, le roman paysan, vous voyez. Voilà, pour faire court, les trois grands faisceaux.
3/60, mais si vous voulez connaître les autres, bien reportez-vous au site de l'Académie française qui les cite, je crois, à peu près tous. Effectivement, René Bazin a été élu à l'Académie française. Alors peut-être pouvez-vous nous en parler, Aliénor, puisque vous avez travaillé cet aspect-là, l'académicien.
Voilà, donc effectivement, René Bazin a été élu en fait le 28 avril 1904 et il s'était déjà présenté deux fois et donc il avait 50 ans à ce moment-là. Et donc il est resté pendant 40 ans à l'Académie française, donc jusqu'à sa mort, donc ce qui est particulièrement long. Et il venait d'Angers et il a donc pris un pied-à-terre à Paris et il était toujours très attaché à sa région natale. Et donc, il a fait beaucoup d'allers-retours entre les deux. Mais ça ne l'a pas empêché d'être très présent sous la coupole. Et du coup, pour vous montrer un peu cet attachement qu'il avait à l'Académie française et sa présence, on peut citer les mots très forts qui ont été utilisés par Maurice Parléologue, qui était directeur de l'Académie au moment de sa mort, quand il a fait, par une courte communication, l'annonce de la mort de leur confrère. Et en fait, on y décèle quand même vraiment l'empreinte profonde qu'il aura laissée à l'Académie. Donc par des mots comme par l'éloge de son talent en parfait écrivain, romancier délicat, penseur idéaliste et pénétrant. Il fait ensuite l'éloge de l'homme en lui-même, donc sa finesse d'esprit, son charme, la droiture de son caractère, sa bonne grâce et la force morale et son éloquente fermeté. Et ensuite, il souligne sa foi profonde, par sa foi chrétienne si intégrale et les innombrables certitudes qui l'animaient et les radieuses clartés qu'il apercevait déjà devant lui. Et donc, cette très belle phrase qui résume finalement René Bazin, c'est celle-ci. C'est « Voilà l'image que nous garderons intimement du cher confrère qui nous laisse un si bel exemple de conscience et de travail, de patriotisme et de vertu. » Donc, je trouve que cette petite communication du directeur de l'Académie est très touchante et résume parfaitement cet écrivain. Et je pense qu'il était assez apprécié à l'époque. Et lorsqu'il a été élu, la presse française a été très, 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 très bienveillante. C'était un petit peu le petit événement mondain d'Angers qui est venu à Paris pour l'élection de son écrivain local, finalement. Donc, je pense un personnage assez sympathique.
Il est mort, en effet, le 20 juillet 1932. Alors, pour nous donner un avant-goût, justement, de son talent littéraire, Aliénor, est-ce que vous nous avez choisi un extrait et peut-être vous pourriez nous le présenter, cet extrait, avant que Fernand Guillot ne nous le lise?
Voilà. Alors, pour présenter son œuvre, donc j'ai pris finalement l'introduction et l'incipit des Noëlets, puisque c'est celui-là que nous évoquerons plus tard. Donc, pour présenter un peu les Noëlets, donc ce roman fait partie de la trilogie des Mauges, comme on l'appelle, avec le roman La Terre qui meurt, qui a été son grand succès, et Magnificat. Donc les Mauges, c'est la région, c'est la Vendée angevine. Donc une Vendée qui a été marquée par la révolte des Vendéens lors de la Révolution française. Et donc c'est une terre qui est marquée par des blessures assez profondes et qui transparaissent alors dans les paysages et les personnages qui sont évoqués par René Bazin, avec des hommes entiers et durs et des femmes souvent très fortes mais qui sont promptes à s'émouvoir et pleines de compassion. Et donc le roman des Noëlets relate donc l'histoire d'une famille de métayers qui s'appelle donc les Noëlets, à travers le drame de leur fils aîné Pierre, qui a un désir en fait effréné d'ascension sociale et qui, pour conquérir le cœur de la fille du châtelain voisin, va simuler une vocation religieuse afin de pouvoir aller s'instruire au collège. Et ensuite, il reniera tous ses devoirs envers sa famille et en entraînant le malheur de celle-ci. Mais heureusement, comme souvent chez René Bazin, le roman finit par une note d'espérance.
Alors on va écouter cette lecture, s'il vous plaît, Fernand Guillot. Lisez-nous ce passage qui est les toutes premières lignes du roman Les Noëlets.
Comme ils sont tristes ces soirs d'octobre. Il y a dans l'air une moiteur qui fait mourir les choses. Les feuilles tombent, comme lasses de vivre, sans le moindre vent qui les chasse. Des troupes d'oiseaux reviennent au nid, et par le chemin qui monte, un chemin creux de la Vendée angevine que les orages nettoient et qu'émondent les chèvres, un jeune gars rentre à la ferme, à cheval sur la huasse. Elle n'est plus belle, la huasse, avec ses poils blancs ébouriffés, son ventre énorme pelé par l'attelage, sa crinière en éventail qui lui donne un air de chat huant. Elle va, son pas résigné de serviteur usé à la peine, traînant sur les cailloux les traits pendants de son collier, tandis que par devant, son poulain gambade comme un petit chevreuil blond et fou. Son cavalier ne la presse pas. Ils sont, elle et lui, presque du même âge. Depuis 15 ans qu'il est venu au monde, elle l'a si souvent porté sur son dos de cette même allure maternelle que rien n'étonne. Maintenant, c'est sa compagne de labour. Toute la journée, ils ont hercé ensemble dans les terres basses. La chaleur était grande, les mottes étaient dures. Tous deux sont là. Ils la laissent donc aller, la bonne bête, aussi doucement qu'elle veut, les yeux mi-clos, et lui, tranquille, dépassant la haie de toute sa tête baignée de lumière, il regarde cette campagne superbe, dont il est l'enfant. À sa gauche, la pente roide du coteau, l'Èvre tordant ses rives plantées d'aunes autour d'un mamelon boisé, des prairies au-delà, puis l'autre coteau qui remonte, couronné comme d'une aigrette, par le château blanc du Vigneau. À droite, au contraire, les champs s'élèvent en courbes régulières par longues bandes de cultures diverses et dont les tons se fondent à mesure que la lumière décroît. Pierre connaît leur maître, celui de ses chaumes, où filent deux rangs de pommiers, celui de ses grands choux, où des perdrix rappellent, et de ce guéret d'où monte la laine des terres fraîchement remuées. En apprenti qui commence à juger les choses, il songe que la métairie paternelle est mieux cultivée, mieux fumée, reconnaissable entre tout à la hardiesse de ses labours, à la beauté de ses moissons. Et ce n'est pas étonnant. Les voisins sont tous plus ou moins gênés. Ils travaillent pour d'autres, écrasés de leur lourd fermage.
Merci. Jacques Richoux, considérez-vous néanmoins que René Bazin est un écrivain régionaliste ? Est-ce que l'on peut dire cela de lui ?
Non, je ne pense pas. Peut-être qu'on l'a enfermé dans cette image. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme ambivalent, avec sa carrière de journaliste très dense dont je vous ai parlé tout à l'heure, son travail de professeur d'université. Non, il avait de multiples centres d'intérêt. Je pense que ce qu'on vient d'entendre sur les Noëlais traduit bien son attachement, l'attachement qu'il éprouvait à sa province et son grand désir de revenir très souvent. Il était dans le conseil municipal de son village pendant toute sa...
Il avait une maison.
Pendant toute sa vie. Il avait une maison dans la banlieue d'Angers, les Renvardières, qui d'ailleurs est le lieu actuel du siège de l'Association des Amis de René Bazin.
On peut la visiter ?
Bien entendu. Oui, c'est possible, oui, au moment des journées du patrimoine.
Bon.
Et l'un de mes oncles vit dans cette maison. Au passage, je lui rends hommage parce que cette Association des Amis de René Bazin, toute récente, de jeune association qui a moins de 2 ans, a pris la suite de la Société des droits d'auteur René Bazin, qui a été magnifiquement conduite par monsieur et madame Catta pendant plus de 35 ans. Vous voyez, et par conséquent, nous suivons, nous poursuivons. Ici, du Quai Conti, nous avons cet attachement aux Renvardières.
On va se retrouver dans un court instant. On marque une courte pause. Retour dans notre studio en compagnie de Jacques Richoux qui préside l'association des amis de René Bazin et d'Aliénor Viau qui en est l'arrière-arrière petite fille et qui nous a préparé de très beaux textes. Alors Jacques Richoux, justement, je le disais au tout début de l'émission, votre association est à l'origine de la réédition d'un des romans les plus célèbres de René Bazin, Les Noëlais. Chez quel éditeur et pourquoi avoir choisi celui-ci particulièrement ?
Alors il s'agit de la maison d'édition Siloé. Pourquoi ? Parce que Siloé a son siège à Laval, en Mayenne, et Siloé s'est beaucoup intéressé à la culture régionaliste, au Pays de Loire, à l'étude des paysages, à l'étude des drames humains. Et cet éditeur a réédité depuis une vingtaine d'années un certain nombre de livres de René Bazin.
Alors, il était paru en quelle année, Les Noëlais, la première fois ?
Alors, la première édition date de 1889. Et cette réédition survient alors que ce livre était tout à fait introuvable en librairie, voyez-vous. Et nous avons un administrateur de notre association, ancien correspondant d'Ouest-France, Jacques Boilève, qui a fait une présentation d'une trentaine de pages de cet ouvrage, et qui travaille très régulièrement avec Siloé et qui habite l'ouest de la France. C'est pour tout l'ensemble de ces raisons, c'est Siloé qui réédite cet ouvrage.
Alors, je vous propose d'en écouter quelques extraits. Alors, Aliénor, peut-être le portrait du héros ?
Voilà, tout à fait. Donc, j'ai choisi comme passage le portrait de Pierre. Et pour finalement présenter ce passage, je voudrais citer le cardinal Poupart, qui est président émérite du Conseil pontifical de la culture et du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui a préfacé la réédition des Noëlais par les éditions Siloé, qui va sortir bientôt. Et donc, il dit « Mais Pierre Noëlais, le fils du métayer de la Genivière du fief Sauvin, donc là où se passe l'action du livre, n'est pas seulement le paysan qui, ayant perdu le contact nourricier avec les racines de sa terre familiale, se trouve désemparé dans la société cosmopolite de la lointaine cité parisienne. C'est en même temps le jeune homme d'un orgueil démesuré et d'un amour-passion non maîtrisé qui affiche une fausse vocation sacerdotale pour sortir d'un milieu qu'il méprise et faire fortune en faisant fructifier ses indéniables, certes, mais assurément non géniales qualités intellectuelles. Donc en fait, on s'aperçoit que Pierre trompe la confiance de son père, qui accepte d'abord à contre-cœur cette vocation qu'il aura exprimée. Et comme il est l'aîné, c'est un crève-cœur pour le père de laisser partir son fils, qui devrait normalement reprendre la ferme, et le père accepte. Et lorsque Pierre avouera à son père qu'il lui a menti et qu'il ne sera jamais prêtre, eh bien le père le chasse. Il quittera la ferme pour devenir journaliste à Paris.
Alors on écoute par Fernand Guillot la lecture de ce portrait de Pierre Noëlet.
Pierre était tout différent. Physiquement, il ressemblait au père. Brun, largement taillé, les traits réguliers. Sa mâchoire carrée, surmontée d'une bouche très fine, annonçait une volonté énergique. Mais les yeux, surtout, indiquaient une nature puissante. Bleus ou verts, on ne savait trop, enfoncés qu'ils étaient dans l'ombre blonde de l'orbite, ils avaient un regard ardent, droit. Le regard sans nuance des êtres forts qui vont brusquement d'un extrême à l'autre. Pour un reproche, pour une contrariété même légère, ils s'animaient et flambaient. Au repos, ils étaient un peu hautains. Rarement, ils s'attendrissaient. La mère les aimait cependant, les yeux sombres de son Pierre, et souvent, quand elle les rencontrait, fixés sur elle, il lui arrivait de songer, elle aussi, « Mon Noëlet n'a pas son pareil dans toutes les Mauges. » Peut-être même l'avait-elle dit. Ni ses mots, ni la flatterie muette de ses sourires qu'il provoquait autour de lui n'échappaient à l'enfant. Vers 15 ans, il sortit de l'école et de suite remplaça le second valet que le père congédia, tout content d'être aidé par son fils. Mais chose rare dans les campagnes, l'écolier survécut à l'école. Il resta liseur et curieux de savoir. Son esprit n'était point au labour, ni même à la joie âpre de la moisson. Pierre travaillait bien, mais sans goût. Il avait une façon de se retirer à l'écart, aux heures de relâche, au lieu de rire avec les autres, tandis que le harnais soufflait, une manière indifférente de regarder les bêtes à l'étable, dont le père s'attristait, et lui dont la terre était l'unique orgueil. Son plaisir était de lire la veillée, ou le dimanche, des livres empruntés à une bibliothèque paroissiale fondée par les Laubriet au fief Sauvin, des fragments de journaux dans lesquels étaient enveloppées les coiffes ou les souliers de ses sœurs achetés à Beaupréau, les affiches placardées sur les murs. Au foire, où il suivait le père à présent, il écoutait les conversations des marchands de grains et de bestiaux qui voyagent beaucoup et raisonnent un peu sur tout. Mille choses le frappaient, que le père ne remarquait pas bien qu'il les entendît également. Il y songeait en travaillant au champ. Et ainsi se formait autour de l'enfant une atmosphère d'idées et d'imagination où il vivait confiné.
C'est effectivement un très beau passage. Jacques Richou, les Noëlets, on espère en vendre beaucoup. Ça va faire un autre succès de librairie, de nouveau, pour René Bazin.
Écoutez, nous sommes dans la suite de 5 ou 6 rééditions récentes qui ont très bien marché. Alors pour les Noëlets, nous avons quelques événements qui sont en train de se préparer. D'abord, une sortie de ce livre à Angers. Le livre va être diffusé d'abord à Angers, parce que Angers, c'est une capitale du monde rural qui comprendra très très bien, qui va accueillir tous les passionnés de cette époque. Puis, nous avons un deuxième événement à Nantes et un troisième en Vendée pour assurer la diffusion initiale de ce livre. Et puis enfin, en 2010, il y aura le 350e anniversaire du petit séminaire de Beaupréau où Pierre Noëlet a fait ses études. Et par conséquent, autour de ce 350e anniversaire, nous aurons l'événement des Noëlets. Donc je pense que la diffusion devrait être satisfaisante.
Alors maintenant, Caliénor, vous nous avez fait croiser Pierre. On va peut-être rencontrer celle qui va changer son destin, Madeleine Lobrier.
Voilà, Madeleine Lobrier qui finalement va le mener à sa perte, sans le savoir. On a donc là en fait le portrait d'une chimère que Pierre Noëlet poursuit, car c'est une jeune aristocrate et qu'il n'est qu'un pauvre métayer. Et on voit là cette jeune fille insouciante, trop sûre de sa beauté et confiante en un avenir radieux et riche. Et elle ne voit pas ce pauvre paysan, ce qui est le compagnon de jeu de son enfance et qui désormais ne fait plus partie de son monde puisqu'elle est promise à son cousin Jules de Pontual. Et donc elle ne parle plus à Pierre qu'avec gentillesse et condescendance. Mais lui, il la met sur un piédestal et il en fait le but de sa vie. Et donc en fait, dans cette description, on la voit dans son élément, la chasse.
On écoute Fernand Guillot.
Elle était ravissante dans son amazone courte. Ses cheveux bruns tordus sous le petit chapeau de soie, le regard animé, la joue rose, tout au plaisir de la course et de la poursuite. C'en est un si grand de courir ainsi, rapide, à travers le vent qui cingle le visage, de se sentir emporté par une force intelligente, obéissante, dont une pression du doigt change l'allure ou la route. Un flot de sensations fortes, l'orgueil d'être maître, l'ivresse de l'espace, une sorte de volupté du danger, la passion primitive du sang, cette vieille férocité que nous retenons d'ordinaire, nous remue âprement. Et comme l'air emplit joyeusement la poitrine, comme il va l'équipage de la landue, c'est une vision qui passe, c'est une fanfare de voix qui court, toute la forêt est en éveil. Madeleine Lobrier s'amuse royalement. Elle est chasseresse de race. Le vieux piqueur qui la couve du regard multiplie pour elle ses bien-allées. Et les notes s'éparpillent sonores à travers les bois mouillés, jetant une épouvante de pluie au cœur du chevreuil, pauvre bête effarée qui risque un dernier effort pour la vie et débuche en plaine.
Alors enfin, après les conflits, les querelles, les dissensions, la fin du roman se termine sur une note d'espérance, mais une note d'espérance liée à la terre et à la transmission de la terre. Aliénor, dites-nous comment ce roman se termine et comment on va écouter cette dernière lecture.
Alors, je vais essayer de ne pas tout vous dire sur la fin, mais on saura quand même que Pierre va se perdre à Paris, se noiera dans l'absinthe et sera ramené par le père qui, miséricordieux, vient le chercher et lui pardonne. Et en fait, je vais quand même vous le dire, il meurt accidentellement à la fin du livre, ainsi que le deuxième fils du pauvre monsieur Noëlet, d'une pneumonie mal soignée. Et donc là, l'espérance se lève, puisque Marie, la modeste et patiente fille aînée, a donc su attirer le cœur de Louis Fauvepre, qui est un jeune voisin courageux, et qui propose à maître Noëlet de prendre à sa suite la métairie en épousant Marie.
Car il est d'accord, le père ?
Et le père est d'accord.
Bon.
Et en fait, on a bien là le roman social qui est souvent évoqué chez René Bazin et profondément ancré dans l'histoire, car ce roman évoque vraiment le drame de la terre qui est désertée par les jeunes générations et donc les difficultés des paysans à assurer leur avenir. Et on déplore ici le désintérêt des enfants par rapport à la terre nourricière. Et donc là, on a une belle note d'espérance à la fin par la demande en mariage qui est, je trouve, un très très beau passage.
Alors écoutons ce passage lu par Fernand Guillot.
La lourde main de Julien Noëlet s'abattit sur l'épaule du jeune homme. Leurs yeux se rencontrèrent. « Mon pauvre gars, dit-il, je n'ai pas besoin d'un charron chez moi. J'avais deux fils, vois-tu bien. L'un est mort, l'autre est comme mort. Puisque je n'en ai plus, il faut que celui qui sera mon gendre tienne la charrue à leur place, à la mienne, quand je ne serai plus là. » Puis, baissant le ton, il ajouta « Tu trouveras femme ailleurs, mon Louis. Il ne manque pas de fille à marier dans la paroisse. »«
Non, c'est la vôtre que je veux, maître Noëlet, » dit Fauvepre impétueusement.
« Tu ne l'auras pas, » fit le métayer.
« Oh, si, je l'aurai. Quand je devrais quitter mon père et changer de métier, j'ai fait un peu de tout dans ma vie, maître Noëlet. Soldat, forgeron, mais toucheur de bœufs et charrueur aussi. Vous savez bien que cet été, quand le travail n'allait pas assez pour le père et pour moi, je me suis loué à la métairie de la grande écorcière. la terre. Ça ne me fait pas peur, allez. Donnez-moi Marie, j'habiterai la Genivière avec vous et j'y resterai à votre place quand vous ne serez plus du monde. Maître Noëlet, si vous voulez un fils pour conduire vos charrues, me voilà. »
Il s'était levé tout droit, superbe, ses yeux flambaient. Ses bras musculeux, croisés sur sa poitrine, bossuaient les manches courtes de sa veste. Et le métayer, qui s'était dressé à demi, le considéra un temps tout saisi et tout fier. La sève lui monta du cœur moins vite qu'à l'autre qui était jeune, mais elle monta. Son regard devint brillant, toute sa physionomie se détendit. Il oublia pour un instant sa peine en voyant qu'un fils lui était venu, que devant lui se tenait un vrai paysan, un Vendéen amoureux de la terre noire, un maître futur de la Genivière, de la même race que les vieux. De ses deux bras, il l'embrassa fortement et touchant de ses cheveux gris la tête hardie du jeune homme. « Alors, dit-il, je veux bien. Dimanche, tu pourras lui causer, Louis Fauvèpre. »
C'était le beau des fiançailles. L'âme des aïeux devait être là quand il fut prononcé. Toute la maison blanche eut un frisson pour saluer l'héritier. La porte battit doucement. N'était-ce pas la joie qui rentrait ? La flamme du foyer jeta un grand éclat. De l'autre côté de la muraille, il y eut un frôlement de robe, un pas glissant qui s'éloignait. Au bout de la cour, un rouge-gorge, en rêvant, jeta trois notes dans la nuit.
Merci à Aliénor de nous avoir préparé toutes ces lectures pour nous faire entrer dans l'œuvre de René Bazin, parce que je pense que ce n'est pas suffisant d'en parler, de connaître sa vie et même ses qualités. Il faut écouter et lire, bien sûr. Donc je ne saurais que vous conseiller de lire les Noëlets qui vont reparaître aux éditions Siloé. Alors Jacques Richoux, est-ce que ce roman, Les Noëlets, vous nous avez dit que ça faisait partie d'une trilogie qu'on appelle la trilogie des Mauges. Est-ce que c'est la même histoire, la terre qui meurt ? Est-ce que c'est une histoire semblable ?
Alors, Les Noëlets, la terre qui meurt, Magnificat, dont on a parlé tout à l'heure, ce sont trois livres qui traitent de la question de l'exode rural. Vous me permettez de revenir sur ce que disait Aliénor il y a un instant, quand elle disait à la fin du livre que le père pardonne au fils. Vous me permettez ce rapprochement avec notre tout jeune académicien que vous avez interviewé l'autre jour sur le pardon.
Monseigneur d'Agen.
Monseigneur d'Agen.
C'est vrai,
alors j'ai vraiment, en écoutant Aliénor, je repensais à Monseigneur d'Agen. Voilà. Alors, ces trois romans, ce sont des romans qui traitent des questions d'exode rural de la fin du 19e siècle, avec le début de l'urbanisation et de l'individualisme. Alors, si vous voulez, c'est un peu le récit de drame humain, d'hommes ou de femmes qui perdent leurs repères, qui s'interrogent devant les questions de transmission familiale.
C'est en cela qu'il est contemporain, finalement, qu'on peut le lire aujourd'hui.
Mais oui, parce que les questions d'enracinement, déracinement, sont au cœur des problèmes quotidiens. Et par conséquent, Aliénor parlait tout à l'heure de roman social. J'aime bien cette expression. Je crois que René Bazin excelle dans les romans sociaux. C'est intéressant donc d'évoquer cette trilogie, ces trois romans.
C'est vrai que le Magnificat, c'est le dernier livre, je crois, que René Bazin a fait publier.
Oui, alors ce qui est intéressant, il y a une petite réflexion sur les dates. Entre Les Noëlets, publié en 1889, et La Terre qui meurt, il y a 10 ans. La Terre qui meurt a été le livre qui a provoqué l'élection de René Bazin à l'Académie française. Et 20 ans après, en 1929, son dernier livre, Magnificat, c'est un problème également de transmission familiale d'une ferme dans le Morbihan. Les Noëlets, c'est dans les Mauves. La Terre qui meurt, c'est en Vendée. Vous voyez que René Bazin était très éclectique sur les choix des drames humains qu'il a excellé à décrire.
Merci Jacques Richoux, président de l'Association des Amis de René Bazin. C'est bien sûr une association à laquelle on peut adhérer ou en tout cas on peut souscrire pour faire aider à la parution de ce livre, Les Noëlets, paru aux éditions Siloé. Merci à Aliénor Viau qui nous a préparé les lectures et qui nous les a présentées avec beaucoup de talent. Je pense que nous aurons un grand plaisir à évoquer dans Canal Academy cet académicien, cette haute figure. Et grâce à vous, nous avons pu le faire. Merci infiniment de votre visite.
Merci, madame.